VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de ce vendredi 24 juillet. À la une ce soir.
Sous haute sécurité, Barack Obama effectue son premier voyage officiel au Kenya ce vendredi.
Au Burundi, victoire sans surprise du président sortant Pierre Nkurunziza à la présidentielle. La CENI le crédite de plus de 69% des suffrages.
Le Togo veut se doter d'un système de statistiques dans l'administration judiciaire et pénitentiaire.
Ici aux États-Unis, une nouvelle fusillade fait 3 morts et 9 blessés dans une salle de cinéma en Louisiane.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Barack Obama est arrivé au Kenya ce vendredi pour son premier voyage officiel dans la patrie de son père depuis son accession à la Maison-Blanche. C'est une visite sous haute sécurité dans un pays durement frappé par les Chababs somaliens. Le point avec Eddie Isango.
Nairobi était inhabituellement calme vendredi après-midi avant l'arrivée du président américain. Une partie de la capitale a été complètement verrouillée et l'espace aérien fermé jusqu'à son départ dimanche soir vers l'Éthiopie et les sièges de l'Union africaine. 10 000 policiers, soit un quart des effectifs nationaux, ont été déployés dans la ville, selon le commandant de la police de Nairobi, cité par l'AFP. Les attaques répétées des Chababs au Kenya expliquent sans doute ces mesures de sécurité renforcées. Et pour Richard Tuta, expert en sécurité, un tel dispositif est justifié. Les présidents américains est une cible des premiers plans, donc un attentat ou même une tentative permettrait aux Chababs d'être sur le devant de la scène, a averti l'expert. Avant de partir pour le Kenya, M. Obama a déclaré qu'il entend discuter de la lutte contre Al-Shabaab avec son homologue Uhuru Kenyatta. Les combats contre le terrorisme sera le thème central. Nous avons travaillé en étroite coopération avec les services américains, a-t-il souligné. Outre le terrorisme, Barack Obama parlera de la croissance économique, mais aussi de la démocratie avec son hôte. Samedi, il doit prendre part au sommet international sur les partenariats qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne.
Le président burundais Pierre Nkurunziza a été réélu sans surprise ce vendredi dès le premier tour avec plus de 69% des voix pour un troisième mandat controversé après 3 mois d'une grave crise politique déclenchée par sa candidature. Eric Manirakiza a joint Charles Nditije, co-leader de la coalition des indépendants de l'espoir menée par Agathon Rwasa.
Comme nous l'avons indiqué depuis le début, nous ne connaîtrons jamais le forcing électoral des communales et des législatives du 29 juin, tout comme on ne reconnaît pas les présidentielles du 21 et les résultats qui en sont ici, tout comme les institutions qui seront mises en place suite à cette parodie électorale. En conséquence, ces résultats, ces institutions ne nous engagent pas.
Charles Nditije, co-leader de la coalition des indépendants de l'espoir au Burundi.
Au Cameroun, les autorités ont décidé d'étendre l'interdiction du port du voile intégral au lendemain d'une attaque suicide qui a fait 13 morts et 31 blessés. La mesure instaurée la semaine dernière dans l'extrême nord du pays frontalier du Nigeria a été étendue aux régions de l'Est et du littoral où se trouve Douala, la capitale économique du pays. Mercredi, 2 jeunes femmes kamikazes ont tué 13 personnes en se faisant exploser presque simultanément à Maroua, la capitale de l'extrême nord, seulement 10 jours après un autre attentat suicide perpétré à Fotokol, une localité frontalière du Nigeria ayant fait 11 morts.
Suite du procès de l'ex-dictateur tchadien devant les chambres africaines extraordinaires et les avocats d'Issenabré passent à l'attaque. Dans un communiqué, ils affirment que l'actuel président du Tchad, Idriss Déby Itno, a été convoqué 2 fois sans succès. Avant de renverser Issenabré, Idriss Déby Itno fut son chef d'état-major et son conseiller de défense et de sécurité. Les avocats d'Abré affirment qu'il était donc responsable de la DDS, la police politique. Le procès de M. Abré pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture, ouvert lundi à Dakar, a été ajourné dès le lendemain au 7 septembre.
Gao, dans le nord du Mali, a reçu cette semaine la visite du chef adjoint de la police des Nations Unies, accompagné de 2 fonctionnaires de l'ambassade américaine au Mali. L'objectif de la visite était d'échanger avec les responsables locaux sur la sécurité et les efforts de stabilisation de la région. Reportage, Boubacar Touré.
Le colonel Jean-François Voileau, chef adjoint de la police des Nations Unies, et sa délégation ont tout d'abord rencontré le directeur de cabinet du gouverneur de la région. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire ainsi que le retour des responsables des affaires juridiques et des responsables administratifs. Pour le directeur de cabinet du gouverneur, les choses vont beaucoup mieux dans la région aujourd'hui malgré quelques cas d'attaques recensés sur les routes de Bourem, Ansongo et Gossi. Concernant le retour des responsables de la justice et de l'administration, d'ici le 26 juin, juillet prochain, tous les responsables de la justice et de l'administration devraient retourner au grand complet. Le colonel Jean-François Voileau a rassuré ses interlocuteurs sur la disponibilité des Nations Unies à apporter tout son soutien aux différentes forces de sécurité maliennes sur la base des capacités dont elles disposent et dans le cadre de l'exécution du mandat de l'aménagement. Les diplomates américains membres de la délégation ont à leur tour signifié la disponibilité de leur pays à collaborer avec les autorités aux côtés de l'aménagement dans la poursuite des mêmes objectifs. Il faut le rappeler, l'aménagement a réhabilité et équipé les locaux du commissariat de police et de la gendarmerie. Dans les jours très prochains, les locaux de la garde nationale et de la protection civile seront inaugurés après être réhabilités et équipés par la mission onusienne. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Le gouvernement de Tripoli, non reconnu par la communauté internationale, ne veut plus de médiation extérieure. Dans un communiqué publié sur son site internet, il appelle à un dialogue sans ingérence ou intermédiaire, assurant que le peuple libyen a la capacité de dépasser tous les points de divergence. En 10 mois, la médiation onusienne n'a pas réussi à trouver de solution politique au conflit qui ravage la Libye depuis plus d'un an.
Du nouveau dans la lutte contre le paludisme, pour la première fois, un vaccin contre la malaria a reçu un avis positif de l'Agence européenne du médicament, malgré son efficacité limitée. La commercialisation, néanmoins, interviendra au plus tôt en 2017, a précisé l'Organisation mondiale de la santé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle fusillade aux États-Unis dans l'État de Louisiane. Cette fois-ci, un homme a ouvert le feu hier soir en pleine projection dans un cinéma de Lafayette. Le bilan provisoire est de 3 morts et 9 blessés. Le tireur s'est donné la mort peu après l'arrivée de la police. Sa motivation n'a pas encore été déterminée. Salwa Jafari.
Le tueur était assis parmi une centaine de spectateurs venus découvrir la nouvelle comédie d'Amy Schumer, Trainwreck. 30 minutes après le début de la projection, l'homme dégaine son arme et ouvre le feu. Les témoins racontent des scènes de panique, une comédie qui tourne au cauchemar.
Nous étions affolés, je n'ai pas entendu les coups de feu, mais j'ai entendu l'alarme, tout le monde hurlait et se dirigeait vers la sortie.
Le tireur, un certain John Russell, un homme blanc de 58 ans. La police parle de tuerie par imitation car cette fusillade a eu lieu 3 ans, presque jour pour jour, après le massacre de 12 personnes perpétré le 20 juillet 2012 dans un cinéma du Colorado.
C'est un simple domicile fixe. Il est à Lafayette depuis juillet. Il vivait dans un motel sur University Avenue.
Cet incident est le dernier d'une longue série, le deuxième en 3 ans dans une salle de cinéma.
La Turquie s'est résolument engagée dans la lutte contre l'organisation terroriste État islamique en menant vendredi ses premières frappes aériennes contre les positions djihadistes en Syrie, alors que la police a mené un vaste coup de filet antiterroriste dans tout le pays. Jacques Aristide.
4 jours après l'attentat meurtrier attribué au groupe État islamique qui a visé la ville frontalière de Suruç, 3 chasseurs F-16 de l'armée de l'air turque ont bombardé plusieurs positions tenues par le mouvement radical sur le territoire syrien face à la ville turque de Kilis. Le Premier ministre Ahmed Davutoğlu a indiqué que l'opération ne s'arrêterait pas. D'ailleurs, dans le cadre d'un raid policier à travers toute la Turquie, près de 300 membres présumés du groupe État islamique ont été appréhendés ce même vendredi. Des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan sont également visés. Le PKK a revendiqué le meurtre de 2 policiers près de la frontière avec la Syrie en riposte à l'attentat de Suruç. La communauté kurde de Turquie reproche au gouvernement d'avoir permis au groupe État islamique de sévir sur le sol turc, ce que nie Ankara. Et après un entretien téléphonique des présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et américain Barack Obama, la Turquie a finalement autorisé les États-Unis à utiliser plusieurs de ses bases aériennes pour mener des raids toujours contre le groupe État islamique en Syrie ou en Irak.
Les États-Unis et leurs alliés ont lancé 27 frappes aériennes contre les militants du groupe État islamique en Syrie et en Irak jeudi. C'est ce qu'indique un communiqué de la coalition menant cette opération contre Daesh.
Un haut commandant d'Al-Qaïda a été tué ce mois-ci lors d'une frappe aérienne dans le sud-est de l'Afghanistan. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le secrétaire de presse du Pentagone. Dans cette déclaration, Peter Cook précise qu'Abdou Khalil al-Soudani est mort à Paktika le 11 juillet. Il était responsable, selon le Pentagone, des opérations suicides et du maniement des explosifs au sein de l'organisation. Deux autres personnes, décrites comme des extrémistes violents, ont également été tuées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La filière ivoirienne de l'anacarde ou de la noix de cajou a réalisé cette année un chiffre d'affaires de 337 milliards de francs CFA, soit une hausse de 68% pour un accroissement de volume de l'ordre de 25% selon l'agence APA. Premier producteur africain de la noix de cajou, la Côte d'Ivoire se rapproche de l'Inde qui occupe le premier rang mondial, a déclaré le porte-parole gouvernemental Bruno Koné. La production cacaoyère du Cameroun est estimée à quelque 230 000 tonnes pour la campagne 2014-2015 qui vient de s'achever contre 209 905 tonnes. L'exercice précédent, selon un rapport de la représentation locale de la Banque des États de l'Afrique centrale, la production caféière, elle, devrait se situer à 40 000 tonnes contre les 32 000 tonnes enregistrées l'année dernière. Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange se sont de nouveau retrouvés sous pression cette semaine, victimes du désintérêt des investisseurs et d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine. Les prix des métaux de base sont repartis à la baisse, dépassant en fin de semaine pour le cuivre et l'aluminium les niveaux connus lors de la dégringolade des cours provoquée par la chute des bourses chinoises il y a 15 jours.
Merci Idrissa Sedoudia pour cette Minute Éco.
Nous passons tout de suite à notre page sport présentée ce vendredi par Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
La Ligue africaine des champions reprend ses droits ce soir.
La troisième journée de la phase de poule commence dès ce vendredi avec le tout-puissant Mazembe qui va tenter de se racheter. Après deux matchs nuls, les Corbeaux sont en Algérie pour affronter Smouha. Toujours en Algérie, à Alger, l'USM ce soir face au MCL Oulma dans le groupe B. Dans l'autre match de cette poule, l'entente sportive de Sétif accueillera El Merreir samedi dans une rencontre qui comptera. Les deux formations sont à égalité au classement avec une victoire chacune. Un faux pas pourrait bien être signe d'élimination finale. Enfin, les Soudanais d'El Hilal se déplaceront à Tétouan avec comme objectif de repartir du Maroc avec 3 points qui pourraient être décisifs dans la course aux demi-finales.
Parlons maintenant des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du monde féminine des juniors.
Ah oui, il n'y a pas de suspense. Après la première manche aller, les jeux sont pratiquement faits. Les scores d'il y a 15 jours sont sans équivoque. Le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud ont leur billet en poche à 99,99%. Le pourcentage est également très élevé pour la Zambie, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo ainsi que le Burkina Faso. La seule incertitude repose sur l'issue de la rencontre qui va opposer à Addis Abeba l'Éthiopie au Cameroun à l'aller. Les Camerounaises ont concédé un nul sans but et se retrouvent en ballotage défavorable. Depuis 2002, année de création de la Coupe du Monde de la catégorie, les Nigérianes ont participé à toutes les éditions.
Le voyage de Lionel Messi au Gabon continue de faire parler de lui.
Oui, sacrée histoire, puisque les briques posées au Gabon par le footballeur argentin en compagnie du président gabonais Ali Bongo Ondimba, eh bien, elles ont disparu. C'est ce que rapporte le quotidien pro-gouvernemental gabonais L'Union. Le quadruple Ballon d'Or avait accompagné samedi, lors d'une visite controversée, le président gabonais à Port-Gentil, la capitale économique, pour poser les premières pierres du futur stade de la ville dans la perspective de la CAN 2017, dont le Gabon est le pays organisateur. Toutefois, les enquêteurs ne disposent d'aucune piste.
Enfin, Tour de France cycliste.
Le champion d'Italie Vincenzo Nibali de l'équipe Astana a remporté la 19e étape à La Toussuire, son premier succès depuis le départ. Le Britannique Chris Froome de l'équipe Sky a lâché une trentaine de secondes à son dauphin, le Colombien Nairo Quintana, mais il a préservé son maillot jaune à 2 jours seulement de l'arrivée à Paris.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas et bon week-end.
Merci chérubin, bon week-end à vous aussi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Heureux d'être en votre compagnie, chez Robin Dorcil et Claire Morin-Gibourg, place au dossier du jour.
La visite du président Barack Obama au Kenya et en Éthiopie lui vaut de nouvelles critiques, selon lesquelles ces deux pays violents violent beaucoup les droits de l'homme et les libertés démocratiques fondamentales. Monsieur Obama, qui arrive ce vendredi au Kenya pour un sommet sur l'entrepreneuriat et des réunions avec son homologue Uhuru Kenyatta, sera le premier président américain à visiter non seulement ce pays, terre natale de son père, mais aussi l'Éthiopie, dimanche, pour des entretiens avec le Premier ministre El Mariam Dessalegn et une allocution au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Idrissa Sedoudia fait le point.
Dans une lettre à M. Obama, Human Rights Watch et d'autres organisations de défense des droits de l'homme ainsi que des analystes reconnaissent les menaces sécuritaires auxquelles les deux pays font face, mais accusent leur gouvernement d'abus sécuritaires et d'efforts accrus pour museler la société civile et les médias. De tels comportements, avertissent-ils, peuvent avoir un effet boomerang en sapant les principes même de l'état de droit. Le chef de l'exécutif américain se promet de mettre l'accent pendant son périple africain sur la croissance économique. Elle dépend, souligne-t-il, de la bonne gouvernance, d'institutions démocratiques fortes, de la liberté d'expression et de presse, d'une vigoureuse participation de la société civile et du respect des droits de l'homme. Certains pays africains ont fait des progrès impressionnants dans ce domaine, mais d'autres pas, a écrit M. Obama dans une contribution au Route, un site web essentiellement africain-américain. Sa visite, a-t-il ajouté, sera l'occasion d'aborder ces questions sans ambages, publiquement et en privé, dans ses conversations avec ses hôtes. Outre la menace terroriste que fait peser sur la région Al-Shabaab, la milice islamiste somalienne.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Burundi, la victoire à la présidentielle du président sortant Pierre Nkurunziza pour son troisième mandat contesté est un non-événement. C'est la réaction de l'ancien chef d'État burundais Domitien Ndayizeye. Sur le micro de La Voix de l'Amérique, le président Ndayizeye, qui était candidat à cette élection mais qui s'est retiré deux jours avant, dit que le combat continue pour faire respecter la démarche démocratique et qui respecte l'esprit et la lettre des accords d'Arusha. On l'écoute au micro d'Éric Manirakiza.
Non, le mandat n'est pas consommé parce que les élections ont lieu contre la volonté non seulement des Burundais, mais contre le conseil de l'ensemble de la communauté, des organisations internationales, contre même les avis des facilitateurs qui nous ont visités. Nous considérons donc que c'est un non-événement, bien que cela aura des conséquences pour le Burundi. Nous allons assister à des institutions qui ne sont pas reconnues par une bonne partie des Burundais, des institutions non reconnues par la communauté internationale, bref, des institutions qui ne vont pas aider le Burundi à sortir du marasme économique et social que nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est très malheureux que nous ayons des dirigeants qui n'écoutent pas les conseils. Mais bref, l'essentiel, c'est que nous nous mettions toujours dans cette logique de la recherche de la paix, de la sécurité pour le Burundi, notamment en cherchant à ce que nous nous mettions ensemble pour forcer le président Nkurunziza et le parti au pouvoir à organiser des élections libres et démocratiques, et des élections, en somme toute, fiables.
Vous faites partie de ceux qui ont mis en application l'accord d'Arusha. Est-ce que vous pensez que c'est toujours possible de revenir aux fondamentaux et de faire respecter cet accord, notamment le mandat présidentiel?
Rien n'est impossible, parce que quand nous avons été négociés à Arusha, il n'y avait rien. Maintenant, nous avons cet accord d'Arusha, nous avons cette constitution. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est d'avoir des dirigeants ou des gens qui acceptent qu'on se mette sur cette voie-là. Ainsi donc, une fois que nous avons des institutions sortant de ces élections qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale et par nous-mêmes, nous pensons que, en fin de compte, selon les pressions qui seront exercées sur ce pouvoir, nous pourrons réorganiser les élections qui répondront aux vœux des Burundais et qui répondront aux standards internationaux qui sont reconnus en matière électorale. Donc pour que soit au pouvoir la personne qui y accède, selon les normes internationales et par la voix du peuple qui s'exprime librement sans y être forcé.
L'ancien chef d'État burundais, Domitien Ndayizeye.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Charles Konan-Bani a été désigné président de la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Mais il n'est pas encore le candidat unique. À 3 mois de l'élection présidentielle, des consultations se poursuivent pour déterminer un candidat unique à l'élection d'octobre pour affronter le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui brigue un nouveau mandat. Charles Konan-Bani réagissait au micro de Tatania Mosso.
Une très large majorité s'est dégagée pour que la coalition ait un visage, un président. Ben, écoutez, je n'ai pas fait campagne pour ça en tout cas, mais je n'ai pas fait campagne contre non plus. C'est un honneur.
Quel est l'agenda de votre coalition ?
Le programme est connu, c'est faire en sorte que les éléments qui sont contenus dans la charte se réalisent et que nous amenions le gouvernement à discuter avec nous pour que nous ayons des élections apaisées, des élections ouvertes, des élections pacifiques, sans violence, transparentes, pour que la Côte d'Ivoire, enfin, consolide la démocratie et qu'au soir des élections, quand le président actuel sera battu, nous puissions faire une passation démocratique, ce qui ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire.
On note pourtant des discordances au sein de l'opposition.
C'est normal. Le monde n'est pas uniforme. La pensée unique, ça n'existe pas. Il faut aussi par le dialogue que nous arrivions à réduire les différences. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas dramatique. Il y a des textes que dans tous les pays, tous les candidats aux élections doivent remplir les conditions posées par la loi fondamentale. Dans tous les pays, ça se fait. Moi, je ne vois pas pourquoi ça s'adresserait uniquement à M. Alassane Ouattara. Ça s'applique à moi, à tous les citoyens ivoiriens qui aspirent à être diriger le pays, doivent être soumis aux conditions de la loi fondamentale. Pourquoi on veut toujours personnaliser, stigmatiser? Je ne veux pas entrer dans ce débat. Je suis candidat justement pour qu'on arrête cette stigmatisation. La Côte d'Ivoire a autre chose à faire que cela. Je suis candidat et nous tous, nous souhaitons représenter la coalition, chacun de nous. On prendra cette décision plus tard.
Les médias se font écho d'une coalition anti-Ouattara.
Moi, je considère que c'est une manière méprisante d'approcher la démocratie des pays africains. Ce dont nous avons besoin en Afrique, ce sont des institutions fortes. Bien sûr, on a besoin des hommes crédibles, mais tout cela, pour moi, veut dire qu'il ne faut pas ramener les problèmes d'une nation à un individu, aussi célèbre soit-il. Sinon, on aurait choisi les formes de gouvernement de la société, un royaume ou un empire. Non, nous sommes en République. Donc ce n'est pas une coalition contre qui que ce soit. C'est une coalition pour la Côte d'Ivoire, pour l'espérance, pour le changement démocratique.
Le Togo veut disposer de statistiques dans l'administration judiciaire et pénitentiaire. Une étude vient d'être réalisée et les résultats validés. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
La justice togolaise ne dispose pas de données statistiques. Pour corriger cette tendance qui agit sur la mise en œuvre du programme de modernisation de la justice, une étude a été réalisée sur l'état des lieux des statistiques judiciaires et pénitentiaires au Togo. Joëlle Affichard est la consultante en charge de l'étude.
Il s'est agi de faire le diagnostic de la production de données au ministère et dans les juridictions, de faire également le diagnostic des capacités des juridictions à produire des chiffres. Mais je propose également l'architecture du système d'information, c'est-à-dire tout le dispositif institutionnel nécessaire à ce que la statistique soit produite.
La prochaine étape sera la mise en place d'un système de production de statistiques judiciaires. Comparé à la santé de l'homme, les statistiques permettront de faire une meilleure analyse de la situation de la justice et de l'administration pénitentiaire togolaise, estime le ministre de la Justice, Pius Agbetome.
On dit que les prisons sont engorgées. Mais peut-être on ne fait pas la bonne analyse. C'est par rapport peut-être à un établissement pénitentiaire qu'on dit que les prisons sont engorgées. Si vous prenez le cas de la prison de Kara, vous ne direz pas que la prison de Kara est engorgée. Mais quand vous prenez la prison de Lomé, parce que c'est une vieille prison et la population carcérale est importante, on dit que c'est engorgé. Et on met en place des politiques pour désengorger. Mais ça ne suffit pas. Donc les statistiques permettront de voir combien de personnes arrivent tous les jours, les délinquants primaires, combien de personnes sortent et reviennent, les récidivistes, combien de personnes sont envoyées au juge d'instruction, les inculpés, combien de personnes sont programmées pour être jugées rapidement, c'est-à-dire les prévenus devant les tribunaux de flagrant délit. Donc c'est toute une panoplie d'informations que les statistiques révéleront.
Afin d'avoir des statistiques fiables, les spécialistes de justice suivront une formation sur la production de données. Eric Nenedini, chargé du programme d'appui statistique à la délégation de l'Union européenne au Togo.
De manière générale, il y a une absence de statistiques. La présence de données ne veut pas dire une présence de statistiques. Parce que les données sont toujours présentes, mais il faut les structurer.
Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Cap sur l'Afrique du Sud, face à la chute des cours et à la hausse des coûts de production, le géant mondial du platine, Lonmin, a annoncé aujourd'hui la suppression de 6000 emplois. Le point avec Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, Lonmin précise que 6000 employés sur 28000 seront probablement affectés par les mesures d'austérité adoptées par l'entreprise britannique. Depuis l'annonce de nos résultats provisoires en mai, le prix du platine a chuté de 14,4%, note Lonmin. Notre direction a travaillé sans relâche pour contenir la hausse des coûts. Les cours du platine qui frôlaient 2 000 $ l'once en 2011 sont récemment passés au-dessous de 1 000 $ l'once, l'offre excédant la demande. D'où la décision de Lonmin de fermer les puits de Hosea et de Newman. Le groupe avait été affecté par 2 longues grèves en 2012 et 2014. C'est d'ailleurs sur le site de Lonmin à Marikana qu'avait eu lieu en 2012 la tuerie des 34 grévistes abattus par la police sud-africaine. Un autre géant minier anglo-américain compte également licencier 6 000 employés sur plus de 151 000 à travers le monde, au motif qu'il se ressent également de la chute des prix des matières premières. Le patron d'Anglo-American, Mark Cutifani, aurait confié aux médias que la société a réduit sa production de platine, mais également de diamants et de charbon. En ce qui concerne le fer, le marché est clairement saturé, a-t-il fait valoir, la production industrielle ayant ralenti en Chine. Le taux de chômage en Afrique du Sud est chiffré à plus de 25%. Le pays devrait se ressentir de cette baisse de l'activité minière, d'autant que la croissance est déjà en berne depuis plusieurs années. L'Afrique du Sud est confrontée depuis décembre 2014 à des coupures d'électricité tournantes, faute d'une production suffisante. Et la croissance au premier trimestre 2015 a plafonné à 1,3%. Selon les économistes, il lui faudrait entre 5 à 7% de croissance pour résorber son chômage chronique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Aujourd'hui sur VOA Afrique, à la mise en onde ce soir, Michel Joseph, Tian Wang était à la console, présentation Claire Moragibourg et chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les infos dans un instant.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.